Radha Hatem Ganzer, le cœur sur l'humain.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Elle a emporté le souvenir du cèdre et même si la douceur du miel coule en elle, elle a la force et le poing levé pour dire non. Je parle, elle parle, des 100 millions de femmes excisées dans le monde, dont 60 000 en France. Je parle, elle parle, de 4 millions de femmes vendues chaque année et de plus de 30% de femmes confrontées à la violence conjugale. Et je ne vous fais pas grâce de cette femme qui meurt chaque minute en accouchant. Gynécologue obstétricienne, Radha Hatem Ganzer a dépassé le stade du non. Elle en est au stade de la maison, une maison des femmes à Saint-Denis, en banlieue parisienne, qu'elle a créée pour accueillir le destin de ces femmes qui méritent écoute, accompagnement, réparation. Voilà donc que se profile un ensemble majeur un peu féministe avec une orientale qui se dit plus « made in France » qu'une marinière d'Arnaud Montebourg. Bonjour Radha Hatem Ganzer.
Bonjour Yasmine.
La formule mérite qu'on y revienne plus tard, je pense. Que veut dire votre prénom ?
Il semblerait que en arabe ancien, il signifie belle-fille ou oasis, j'ai jamais pu trancher.
Est-ce que l'oasis que vous êtes parle beaucoup de langues ?
Je parle français, arabe, anglais comme tous les Libanais à peu près.
Ouais.
Avec des rudiments très très rudimentaires de grec où mes parents ont vécu longtemps.
Et de franc-banais aussi ?
Bah, le franc-banais, vous avez raison, c'est une langue à part entière.
On est d'accord.
On est bien d'accord.
Est-ce qu'il faut rajouter à ça l'italien façon Callas ?
Je chante l'italien. Et j'ai des livres d'italien sur mon bureau depuis des années en me disant je vais m'y mettre, je crois que je vais attendre la retraite.
Donc vous chanterez pendant votre retraite Casta Diva, qu'on va déguster
évidemment.
En sol majeur. Juste avant votre manifeste, hein, car vous avez écrit un texte manifeste qu'on va écouter. Mais d'abord ça, pourquoi ce morceau Casta Diva ?
Parce que je trouve que c'est une ode magnifique qui, moi, m'emporte. Et c'est vraiment une de mes premières amours musicales autour de la voix. J'ai fait beaucoup de piano. J'avais un prof de piano qui adorait la voix, qui me disait « c'est un instrument à part entière ». Moi, j'avais 10 ans, je disais « oui, c'est ça, c'est ça. Allez, viens, on va faire du Schubert ». Et plus je grandissais, plus je comprenais qu'il avait raison et il m'a vraiment initiée à la voix comme instrument.
Thank you.
Moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que les femmes, qui sont tout à la fois la moitié du ciel, l'avenir de l'homme et le sel de la terre, si l'on en croit les poètes, étaient devenues des êtres humains, libres, égales et fraternels. J'ai rêvé qu'elles quittaient leurs habits de sorcières. J'ai rêvé qu'elles n'étaient plus de simples matrices, productrices de chair à canon, des variables d'ajustement, des faire-valoir ou des souffres-douleurs. J'ai rêvé que leurs bras, leurs cheveux, leurs jambes n'étaient plus des incitations à la violence. J'ai rêvé que leurs maris, leurs frères, leurs mères n'avaient plus droit de vie et de mort sur elles. J'ai rêvé que leur sexe à la naissance ne les condamnait plus à une mort immédiate. J'ai rêvé que leur hymen n'était plus la partie la plus importante de leur anatomie. J'ai rêvé que leur clitoris n'était pas un pénis à extirper. J'ai rêvé qu'elles avaient droit au plaisir, à la séduction, à l'autonomie, au pouvoir. Les femmes ne doivent plus être la plus grande minorité opprimée vivant sur Terre. Parce que les femmes sont vos compagnes, messieurs, et aussi les mères en devenir. Parce que leurs enfants sont les citoyens de demain et qu'elles sont leurs toutes premières éducatrices. Parce que le monde sera ce qu'elles en feront et que nous sommes responsables des conditions dans lesquelles elles les mettent au monde et les aident à grandir.
M comme
manifeste.
Voilà, ce texte est sur le site de votre Maison des Femmes à Saint-Denis, qu'on peut trouver, manifeste, hein, véritablement, Radha Hatem Ganzer. Un peu dans la veine d'un Martin Luther King, on va dire, mais c'est quasiment un programme politique.
C'est vrai. En fait, je l'ai écrit un jour où j'étais énervée. On m'avait demandé de raconter pourquoi je me mobilisais, etc., et de raconter ma vie. Et je trouvais que c'était beaucoup plus marrant d'écrire. Qu'est-ce qui m'énervait, en fait, dans ce monde? Et oui, si on met en œuvre ce programme politique, je pense qu'on aura fait un pas énorme.
Quelle serait votre première exigence si vous aviez un décideur politique en face de vous?
Ça dépend dans quel pays et partie du monde on est. Si on est en Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, l'autonomie, le droit d'aller à l'école, le droit de ne pas se marier jeune... Le droit de ne pas être la bonne, parce que combien de filles sont la bonne de leur mère, de leur frère, de leur père? Évidemment, si on est en Occident, c'est l'égalité salariale, c'est le droit de ne pas être importuné, et c'est le droit d'accéder à des hautes sphères, de faire péter le plafond de verre. Ce n'est pas du tout les mêmes thématiques, évidemment, mais je pense qu'il faut avancer partout et que l'Occident est aussi une porte ouverte sur l'avenir pour les femmes qui sont très très loin de la liberté dont nous disposons, vous et moi, ma chère Yasmine.
Et oui, ma chère Radha, est-ce que c'est la féministe en vous qui vous a fait choisir un jour la gynécologie?
Non, pas du tout. La gynécologie, ça a été vraiment une rencontre avec la magie de la naissance, passionnante et qui est au cœur de l'humain, puisqu'elle concerne certes le ventre des femmes, mais aussi leur conjoint.
Dans « Au pays du machisme ordinaire », qui est un livre d'entretien que vous avez accordé à José Lanzini, c'est aux éditions de l'Aube et je le conseille, on découvre votre parcours, Radha, c'est un parcours riche. Vous êtes passée notamment par la maternité des Bleuets, qui était spécialisée dans l'accouchement sans douleur, qui a été une révolution dans le domaine obstétrique. Et puis ensuite par l'hôpital militaire de Saint-Mandé. Et là, vous dites y avoir découvert tout un monde.
Oui. Parce qu'en bonne petite graine de révolutionnaire...
Antimilitariste.
J'étais antimilitariste, évidemment. Et d'ailleurs, je m'étais réjouie de la fin du service militaire. Et puis, j'ai complètement revu ma copie. Parce que comme toujours, hein, quand on ne connaît pas, on a des tas de jugements à l'emporte-pièce. Et j'ai découvert des gens incroyables. Je ne dis pas qu'il faut désarmer, qu'il faut faire la guerre. Mais il y a une structuration... notamment pour les jeunes, qui est intéressante. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient un peu en perdition, que l'armée avait réussi à remettre un peu dans quelque chose qui avait du sens. Et depuis, je me dis qu'on devrait remettre le service militaire obligatoire pour les garçons et pour les filles.
Ai-je bien entendu?
Oui. Je pense que c'est 6 mois, on n'a pas besoin d'y passer 100 ans, mais 6 mois de mixité obligatoire, les pauvres, les riches, les noirs, les blancs. Et ça ferait tellement de bien à tout le monde. Et en plus, ça serait plutôt autour de questions... enfin civique, pas d'aller faire la guerre, mais de se réunir pour œuvrer. Voilà, je pense que ça leur ferait un bien fou.
Et puis vos pérégrinations, si j'ose dire professionnelles, vous ont fait atterrir dans le fameux 9 cubes, ce terrible 9-3. où j'habite, et où justement vous avez décidé d'implanter votre maison des femmes. Pourquoi précisément à Saint-Denis ?
C'est le hasard de ma carrière, c'est-à-dire étant responsable de la maternité de Saint-Denis, puisque j'étais venue là pour ça, et puis étant un peu, pas tout à fait fin, mais quand même assez avancée dans ma carrière, donc j'avais une idée de ce que j'avais encore envie de faire et de ne pas faire. Et il m'est apparu que ça, c'était un domaine que je n'avais pas tellement exploré. Et que la Seine-Saint-Denis, en fait, rajoute à la violence, qui est malheureusement transcende toutes les couches sociales, elle rajoute la précarité et l'immigration, qui sont deux facteurs, pour moi, aggravant ces situations. Donc je me suis dit, c'est un endroit où je dois le faire, c'est certainement ici.
C'est un lieu qui a une histoire aussi, Saint-Denis.
Oui, la ville de Saint-Denis a une histoire qui remonte, je ne sais pas s'il était pape, Saint-Denis, quand on lui a coupé la tête et qu'elle a roulé jusque-là, c'est une belle histoire.
Alors la voix de ces femmes victimes est là dans votre ensole majeur, elles s'appellent Hadassah et Diariatou. Et elles ont été obligées de fuir leur pays pour échapper à la violence et elles ont été accueillies dans votre maison des femmes à Saint-Denis.
Quand je suis arrivée, la toute première fois à la maison des femmes, je n'arrivais pas aussi à dire de quoi je souffrais. Redire mon passé, ça me faisait tellement plus mal encore. Mais après, je me sentais libérée. La première fois quand je suis arrivée à l'atelier, c'était l'atelier estime de soi. Je me suis confectionnée une paire de boucles d'oreilles. On m'a encouragée. J'étais très touchée parce que c'était la première fois qu'on valorisait mon travail. Le moment le plus joyeux, c'était l'atelier théâtre. On ne juge pas, tu fais bien ou tu ne fais pas bien, non.
On a commencé l'atelier de théâtre. On jouait une séance de viol.
Maintenant, l'excision.
De l'excision aussi. Et comme vous savez, j'ai vécu de cela, on m'a donné un mortier pour dire qu'il faut que je tape à terre, ça va faire le bruit comme c'est le viol. Je tremblais tellement que elle venait à mon côté. Elle me dit non, tu ne te forces pas, tu fais comme tu sembles, comme tu veux. Ce jour-là, j'ai pris le mortier, je tapais par terre. Durant toutes les années, j'étais dans mon réserve. Et je faisais seulement que pleurer. J'avais besoin aussi d'aide et de voir aussi des médecins compétents. Moi, j'ai subi une opération. J'ai refait la construction et on m'a accompagnée.
Pour en sol majeur, donc un témoignage qu'on retrouve sur le site de la Fondation Kering, qui est implantée un peu partout dans le monde et qui encourage de nouvelles approches, je cite, telle que la vôtre à la maison des femmes, Rada. Qu'est-ce qu'il faut entendre par nouvelle approche ?
Ce qu'on a fait de nouveau, c'est qu'on avait compris, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que la violence était très compliquée pour les femmes et qu'il leur fallait beaucoup d'acteurs autour d'elles. Il leur faut aussi bien un médecin, une sage-femme, une psychologue, un psychiatre, mais aussi un avocat, un juriste, un policier. Et on s'est dit, c'est très simple, on va leur faciliter la vie. Au lieu qu'elles soient en train de courir après tout ça, on va les mettre au milieu et on va mettre tout ça autour d'elles.
Est-ce que c'est aussi en lien avec ce qu'on appelle la médecine de la violence, dont vous êtes une adepte ?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut, de la même manière qu'il faut soigner l'hypertension, le diabète, il faut soigner les séquelles de la violence. Et qu'on le veuille ou non, cette violence attaque notre cerveau, notre psychisme, et a des conséquences néfastes que nous gérons plus ou moins bien.
On l'entend hein, dans ces voix de femmes, on entend le traumatisme du viol. Ça paraît fou de devoir le rappeler, mais les conséquences et les dégâts multiples d'un viol sur une femme.
Oui, on a tendance à banaliser, notamment dans les pays où la violence est pluricotidienne. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente et que les Syriens avaient envahi le village où j'étais et qu'ils avaient violé plein de filles. Et en fait, les gens n'étaient pas du tout inquiets pour les filles, mais juste pour la réputation des familles. Elles sont marquées du sceau de l'infamie. Cette infamie rejaillit sur toute la famille, comme souvent dans ces cultures. Et c'est ça le plus grave, en fait. On oublie complètement les victimes.
Le regard de l'autre qui prime oui. sur l'importance
du qu'en dira-t-on et de l'honneur.
Alors, on va sans doute revenir à cette question de l'honneur, mais ces femmes parlent d'estime de soi et de reconstruction. Est-ce que ça veut dire que chez vous, elles ne sont pas réparées uniquement sur le plan psychologique ?
Alors, on reconstruit psychiquement, symboliquement et physiquement. Dans ce qui est reconstruction chirurgicale, il y en a deux qui sont possibles. Il y a la reconstruction du clitoris, dont elles ont bénéficié, parce qu'elles avaient été excisées. Et puis, il y a quelque chose qui est plus sujet à caution, qui est l'hymen. Faut-il reconstruire un hymen ? La réponse est non, en réalité. Mais après, il y a la vraie vie, c'est-à-dire il y a le dogme. Et quand une jeune fille vit dans une famille où son hymen est beaucoup plus important que tout le reste et que toute l'énergie de ses parents et de ses grands frères a été déployée pour que surtout personne ne touche à ce bijou, eh bien quand, pour des raisons multiples, qui peuvent être un viol, qui peuvent être un inceste, mais qui peuvent être aussi une très belle histoire d'amour avec quelqu'un qui n'a pas la bonne couleur, pas la bonne religion, et qui ne sera jamais acceptée, elles sont obligées de changer de partenaire. Et là, leur terreur d'être attrapées comme ayant déjà fauté est telle qu'elles sont prêtes à tout. Et c'est là que notre rôle de médecin est de conseiller, de dédramatiser, d'expliquer. Et puis parfois, quand il n'y a aucune solution, éventuellement de reconstruire.
Est-ce qu'on peut préciser le profil de ces femmes que vous accueillez à la maison des femmes de Saint-Denis ? D'où viennent-elles ?
Elles viennent de partout. Elles viennent de loin, pas du tout à proximité de la région parisienne. Elles viennent de tous les milieux sociaux. On a aussi bien des migrantes arrivées la veille ou qui dorment dans la rue depuis 6 mois, que des enseignantes, que des infirmières ou des banquières, ou peu importe. La violence n'a pas de limite. Il suffit d'être en lien avec un agresseur et vous avez tout perdu.
On parlait de la question de la reconstruction de l'hymen, si importante aux yeux de certains dogmes. Et puis il y a cette fameuse question de l'excision qui est encouragée, d'ailleurs, selon un processus ancestral, par les mères elles-mêmes, très souvent, qui fait que vous réparez, donc vous le disiez, de façon chirurgicale, l'ablation du clitoris. Il y a 100 d'opérations par an dans votre maison des femmes. Et il faut rappeler aussi que des femmes continuent de se faire exciser en France. Et qu'on peut, vous, Rada Hatem, vous taxer parfois, et même dans l'enceinte d'une université, de toubab qui se mêle de coutumes qui ne la regardent pas.
Oui, c'est une petite tendance. Vous savez, de quoi je me mêle, c'est pas ta culture, c'est pas ton problème. Tu viens là avec ton modèle blanc, patriarcal, dominant. Et c'est assez pénible à entendre, en fait, parce que non, je viens pas avec mon patriarcat, je viens avec ma conviction qu'une fille, quelle que soit sa couleur, n'a pas à se faire couper le sexe, quel que soit le motif, quelle que soit la culture. C'est insensé. Et donc, à ce titre-là, humainement, je ne peux pas l'accepter.
Quels sont vos arguments ? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme argument ?
Mais d'abord que si on croit en Dieu, ce qui semble être le cas, eh bien Dieu nous a fait comme nous sommes parfaits. Pourquoi faut-il faire des retouches aux filles principalement ? Parce que les garçons ont leur couple prépuce, ça fait tout à fait les mêmes conséquences. Et puis mais l'argument en fait, c'est à quoi sert l'excision ? On peut inventer plein d'explications, il n'y en a qu'une qui tient la route. C'est pour maintenir le corps des femmes sous surveillance, qu'elles n'aient pas de désir, pas de plaisir, qu'elles attendent l'homme qui va cueillir la perle enfouie entre leurs cuisses, et comme ça, le monde va tourner bien rond. C'est un argument qui ne repose que sur le désir des hommes d'être le premier, de maîtriser la lignée. Ils ont tellement peur qu'une femme soit enceinte des œuvres d'un autre et qu'il soit obligé d'élever un bâtard. Ça les terrorise depuis la nuit des temps, clairement. Donc, les arguments en faveur de l'excision ne tiennent pas la route. Dès qu'on pose comme équation une femme égale un homme, même droit, même devoir, je ne vois pas pourquoi on s'arrogerait le droit d'empêcher la moitié de l'humanité d'accéder au plaisir et de vivre une vie sexuelle épanouie et normale.
Alors il faut rappeler, Rada, que la France elle-même revient de loin. Comment oublier ce petit article 1124 du Code Napoléon qui dit, je cite, « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.
Ça fait plaisir. Hein,
ça fait plaisir à entendre. Et donc, il est au fond beaucoup question au bout de tout ce travail d'éducation. Et c'est pour ça peut-être que vous avez mis en place un programme que vous avez intitulé « Des gynécologues à la rencontre des adolescents ».
Alors, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est le Fonds pour la santé des femmes, qui est une émanation du Collège des gynécos, mais j'ai tout de suite adhéré parce que je trouve ça tellement important.
C'est le cœur du problème en même temps.
Complètement. Je lisais récemment, je ne sais plus quelle femme, qui va dans les prisons discuter avec les prisonniers qui, très souvent, ont eu des comportements inadaptés. Et il y en a un qui lui a dit « Si on m'avait expliqué ça quand j'étais petit, je ne serais pas là ».
Mettre au monde des enfants, c'est votre premier boulot. Est-ce que vous avez la sensation que vous tentez de mettre au monde des adultes aujourd'hui ?
Ça serait génial. C'est très ambitieux.
Vous êtes une femme, vous êtes médecin et vous êtes une migrante. Vous pensez que le fait d'être une migrante première génération, je vous cite, vous confère une écoute particulière par rapport à ces femmes ?
Oui. Alors même si je suis une migrante de luxe. Mais... Je suis partie en laissant un pays en vrac, ce qui est souvent le cas de mes patientes. Et je n'avais pas forcément de billet de retour. Et donc, il y a ce côté d'abandonner.
Donc, la fêlure, la question de la fêlure ouais. intérieure, vous la connaissez ?
Et complètement. La question aussi de plus savoir très bien d'où on est, parce qu'on n'est pas tout à fait d'ici, on n'est plus tout à fait de là-bas. Et finalement, on peut être inconfortable aussi dans cet entre-deux. J'ai connu aussi à 5h du matin la queue dans la préfecture de police et quand vous faites des études et tout ça, c'est insupportable. J'ai connu le fait de devoir avoir des visas chaque fois que je sortais, chaque fois que je revenais. Tout ça, je sais. J'ai connu aussi ce que connaissent beaucoup de femmes, qui est d'accoucher loin de chez soi, par exemple, loin de ces coutumes qui vous enveloppent, qui vous donnent des repères. Voilà, tout ça, je le ressens.
Donc vous avez une sorte de petit mode d'emploi, c'est pas un très joli mot, mais pour accueillir une parole d'une femme qui viendrait d'Afghanistan ou d'un coin d'Afrique de l'Ouest.
De n'importe où. D'ailleurs.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out. Must not ask for so much.
Léo a tout dit. Comme un oiseau sur un fil, comme un ivrogne dans une chorale de minuit, j'ai essayé à ma manière d'être libre. Pourquoi cette chanson de Leonard Cohen, Radha Hatem Ganzer ?
Parce que j'ai fait pareil.
Vous faites comme le petit oiseau, si j'ose dire.
Voilà, j'essaie d'être libre. Pas facile tous les jours.
Ouais.
Mais voilà, on a des modèles, on a des références et ça aide.
Alors, on a une petite curiosité dans notre salon en sol majeur pour savoir, dans votre Liban natal multiconfessionnel, multiculturel, quel livre et quelle voix littéraire vous avez pu écouter.
La bourgeoisie s'est toujours méfiée, à raison, de ses intellectuels.
Le goût de la possession n'est qu'une autre forme du désir de durée. C'est lui qui fait le délire impuissant de l'amour.
Où le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours potentiellement souviennent.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Aucun être, même le plus aimé,
c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique,
sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés,
qui définissent la femme en tant que telle.
La possession totale d'un être,
B, comme
la vie est une impossible exigence.
Patrie.
Vous les reconnaissez, votre
joli patchwork?
Mais est-ce que vous reconnaissez
les voix? Non. Les textes, oui. Non, les voix, non, dites-moi.
Par ordre d'apparition, on a Sartre, Camus, Apollinaire et notre chère Simone de Beauvoir.
Simone, je l'avais reconnue. Apollinaire, en live?
Sur le pont Mirabeau.
C'est lui qui déclame?
Oui, je pense.
Cool.
Cool. Vous êtes née en 59 à Hammana.
Hammana.
Hammana. Donc au Liban. Et
enfin, je suis née à Beyrouth, vous savez.
Ah, c'est quand même plus chic, hein, attention. Hein.
Non, non, mais au Liban, on vous met née dans le cadavre de vos grands-parents.
La filiation est dans les papiers,
très
si j'ose dire.
Très, très forte.
Et en étant inscrite à la mission laïque française du lycée franco-libanais de Beyrouth, vous dites avoir choisi très tôt votre patrie intellectuelle.
Oui, évidemment, quand on a une majorité de cours en français, que les matières que vous apprenez dans cette langue sont passionnantes et que ce qu'on vous donne à voir en arabe est beaucoup moins palpitant, parce que nous, ce qu'on apprenait, c'était histoire de... Comment je traduis ? Tariq al-Uloum and al-Arab. Histoire des connaissances chez les Arabes, c'est très pauvre. Mm-hmm. Et c'était ça le programme de première et de terminale. On s'intéressait assez peu aux poètes arabes que j'ai découverts par la suite, en partie grâce à mon père. Et donc, pour moi, la patrie où ça bougeait, où ça pulsait, où on avait des idées, c'était la France des Lumières, la France de la laïcité, très important pour nous, les gamins de ce pays qui est tellement empêtré dans son confessionnalisme, que de découvrir qu'il y avait un endroit, en tout cas cette école, où c'était pas un sujet, où on était aussi bien juifs, chiites, sunnites, orthodoxes, arméniens. Ça donnait beaucoup d'espoir. On se disait que peut-être un jour, quand le Liban serait grand, il serait laïque. Malheureusement, on n'y est pas encore.
Oui. Vous vous méfiez à l'époque de ce qu'on appelle la communauté, quelle qu'elle soit. Vous souhaitiez justement n'appartenir à aucune, si ce n'est peut-être à celle des libres penseurs.
Je crois qu'on ne le formule pas aussi clairement quand on est très jeune, mais je me méfiais beaucoup, beaucoup de tout ce qui emprisonne. Parce que l'être humain est plein d'idées pour emprisonner, notamment les femmes. Et donc tout ce qui me disait « tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre, tu es égal, tu es ceci, cela », évidemment, m'était très cher.
Oui, alors ça m'amène à cette question. Dans ce Liban des années 60, 70, est-ce que vous avez rempli votre rôle de fille ?
Ada, non, je ne crois pas. Je suis une mauvaise fille.
Oui, ça veut dire quoi alors ?
Ben, si, j'ai quand même, parce que j'ai une éducation assez traditionnelle quand même. Même si j'avais le droit d'étudier, de faire tout un tas d'autres trucs, du sport, de la danse, de la musique, il fallait quand même que la base soit respectée. Donc savoir tout faire à la maison, éventuellement faire à la place de ses frères, que l'honneur soit respecté. On était quand même assez vigilants sur... avec qui tu sors, avec toujours cette arrière-pensée qu'on a, notamment en Orient, c'est attention, tu sais que c'est important, l'hymen, les garçons, la grossesse.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait de cette question de l'honneur, Alain ?
Oh, j'ai dit merde. Très tôt, parce que c'est insupportable. Et puis, vous le savez, j'ai trois frères. Et quand on a trois frères, on comprend vite que c'est pas pareil dans la tête des parents. Et moi, j'avais pas envie que ça soit pas pareil.
Une gouttelette de caramel, est-ce que vous savez, je parle de ce film qui met en scène le destin de cinq femmes béroutines. Ça se passe dans un salon de beauté, ça vous dit ?
Oh oui, il n'y a rien de mieux pour épiler.
معقول هي مثل حاجه ما طلعي بالصوره جبتي لي صوره بنت عمرها من عمر بناتك عم تفلسفي علي
اسكتي انت فوتي لجوا فوتي لجوا خلص فوتي لجوا شوفي
حلوين شو هلا هاو حلوين عجبينك ليا ولك ليه كيف ملزقت لهن طالعين ساعتين ونص بربك ليه كيف ملزقت لها ودي الله مطلعت لها ولك انا عمري 60 سنه
حسينا بقى ما حاولت الحسن
قري معي خسرتك انت بتقعد شو بتشلحي بعدين هيك شو المقبوله شو بدها شو تخلص منها يعني شوفي عندها
ما عندي خالي
بعدين انت سكتي
Je fais une de ces chaleurs ici.
Tu veux bien arrêter de bouger.
Allume la climatisation.
On peut pas, ça risque de faire sauter les plombs.
La ferme.
T'as qu'à éteindre le frigo.
Il faut enlever ces adhésifs. Ça sert à rien, ça sert vraiment à rien.
Tu as raison.
Alors pourquoi t'insistes pour en mettre ? On va essayer autre chose. Je vais t'attacher les cheveux de façon à remonter un peu ton regard. Sans mettre d'adhésif. Hein ? Ça te rajeunit, tu vois ? Il reste plus qu'à enlever cette épingle. Regarde comme tu es belle.
Ah oui, tu trouves ?
Tu es splendide, plus belle qu'une orchidée.
Ce film Caramel s'amuse bien à vraiment des paradoxes de votre Liban, Rada Hatem Ganzer. Ça résume un peu, j'ai l'impression, hein, la question de ces femmes qui semblent libres à Beyrouth.
C'est un paradoxe terrible. Elles semblent libres, elles ont de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la donne a changé. Mais oui, elle pouvait acheter tout ce qu'elle pouvait, utiliser la chirurgie esthétique à tort et à travers. Pour autant, elles sont assignées à ce rôle. Sois belle, tais-toi. Tu es le petit bijou que ton mari s'accroche au revers de sa veste pour bien montrer qu'il a réussi. Et c'est un rôle insupportable.
Est-ce que ça vous fait le même effet d'entendre cet extrait là qu'on vient d'entendre d'un côté en français et puis en arabe ? Est-ce que ça a le même goût ?
Non, beaucoup plus savoureux en arabe.
Plus subversif aussi ou pas ?
Oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup ce genre de voix. Je ne me souviens plus à quel moment du film ça fait référence, mais moi j'ai gardé trois moments clés dans ce film. Là où cette femme, plus toute jeune, veut encore donner le change. Et on voit bien que quand on n'a pas grand-chose d'autre que sa beauté ou son statut social, eh ben c'est terrifiant de les perdre. Et donc, où elle se met des scotchs pour relever ses bajoux parce que
ça tombe.
Elle n'a pas le temps de se faire opérer, je pense. Ou quand elle met du mercurochrome sur un protège-slip et qu'elle le laisse négligemment dans les toilettes où elle est allée faire une audition pour montrer qu'elle n'est pas ménopausée, elle a ses règles. Et puis aussi, il y a une scène dans une clinique pour refaire un hymen. Elle n'a pas loupé ça non plus, Madame Labaki.
Est-ce que c'est cette fameuse guerre au Liban qui vous a éloigné de votre terre natale ?
Oui, parce que je n'avais pas spécialement prévu de partir faire des études de médecine en France. On avait une très bonne faculté qui était jumelée avec Lyon. Donc c'était la garantie aussi, une fois qu'on avait fini le socle des études médicales, de pouvoir venir faire une spécialisation en France. Et vers les années 76, la France a décidé d'abandonner ce partenariat. Donc ça devenait une faculté de médecine libanaise, donc aucune garantie de pouvoir faire une spécialité après. C'était la guerre, j'en avais un peu marre et je me suis dit, bon, allez, je vais partir tout de suite, comme ça je serai sûre après de faire la spécialité que je veux.
Et vous vous souvenez de vos premiers pas dans la patrie de Sartre et Beauvoir ?
Très bien, je me souviens de l'avion qui atterrissait. À Orly, mon frère était venu me chercher. Alors évidemment, premier émerveillement, c'est un pays rangé. Alors moi, j'arrivais du chaos le plus total. Il y a des feux, on s'arrête au feu, c'est propre. Et puis après, quand je suis allée me promener à Paris, oui, vraiment l'impression mais profonde d'être à ma place, d'être chez moi, de zéro exotisme. J'y avais jamais mis les pieds, mais je connaissais tout ça par cœur, les films, les livres. Et il y a deux sentiments très importants pour moi. Ce sentiment d'être là où je devais être, c'était bien. Et puis ce sentiment qu'on connaît peu quand on vit en Orient, c'est le sentiment d'être anonyme. Et ça, je trouve, ça n'a pas de prix. Parce qu'évidemment, en Orient, tout le monde disait que vous allez, vous venez. Mm-hmm. Elle a parlé à machin, je vais lire à sa mère. Elle a souri à Bidule. Oh, il y a Anguille Souroche. Ici, mais tout le monde s'en fout. Évidemment, il y a le revers de la médaille. Voilà. Vous pouvez crever sur votre paillasson. Tout le monde s'en fout aussi.
C'est le tout le monde s'en fout. Aujourd'hui que vous avez reçu le prix Simone Veil, Rada Hatem Gunzer, c'est un prix qui récompense une personne agissant pour l'égalité entre les hommes et les femmes, prix dont vous êtes fière évidemment, pour toutes les raisons qu'on suppose. Quels sont les portraits que vous avez souhaité accrocher au mur de la Maison des Femmes à Saint-Denis ?
Très bonne question d'actualité. Nous venons de nous agrandir et donc nous avons coopté encore 20 nouvelles femmes. On en a accroché plein. Ça va de Simone Veil, évidemment, à...
Marie Curie.
Bien sûr, Marie Curie, elle est au-dessus de ma tête. On a mis aussi Niki de Saint-Phalle, parce que c'est une femme qui a une vie terrible, John Bayes. Taslima Nesrine, qui est gynéco et activiste. L'idée, c'était à la fois de les mettre un peu à l'honneur, mais bon, c'est que notre petite maison. Mais on s'est dit que ça avait un impact pédagogique, parce que toutes les femmes qui sont dans la salle d'attente, elles lisent ce qu'on a écrit en dessous de chaque portrait. Et je me dis, comme ça, elles voient qu'il y a des tas de femmes qui viennent de très loin, qui ont vécu des vies horribles et qui, finalement, ont marqué de leur énergie, de leur courage, de leur créativité, ce monde, et que, pourquoi pas elles ?
Alors, le portrait du prix Nobel de la paix 2014 étant accroché dans votre ensole majeure, avec votre consentement, Rada, on va écouter sa voix. Il s'agit de Malala Yousafzai, militante pakistanaise, victime, on s'en souvient, d'une tentative d'assassinat par les talibans.
Deux tentatives d'assassinat
par les talibans qui tentaient d'interdire la scolarisation des filles.
Quand j'avais 10 ans, la vallée du Swat, un lieu de beauté, de tourisme, s'est transformé en un lieu de terrorisme. Plus de 400 écoles ont été détruites. On a fouetté des femmes. On a tué des innocents. Et nos beaux rêves sont devenus des cauchemars. L'éducation, au lieu d'être considérée comme un droit, était considérée comme un crime. Les filles ont été empêchées d'aller à l'école. Quand mon monde a subitement changé, mes priorités ont également changé. Deux solutions se présentaient à moi. Une consistait à rester silencieuse et à attendre d'être tuée. Et la seconde solution était de m'exprimer haut et fort avant d'être tuée. J'ai choisi la deuxième solution. J'ai décidé d'oser parler.
Malala Yousafzai, qui vous inspire quelle réflexion, Rada ?
J'adore cette fille. Elle est sur les murs de la Maison des Femmes et je trouve qu'elle a trouvé la formule la plus percutante quand elle dit « Ce n'est pas des chars que les talibans ont peur, c'est d'une fille avec un livre. »
Tout est dit.
Incroyable. Et alors, quand même, intéressant, elle a un père. C'est une théorie que j'ai avec une copine libanaise. C'est les pères qui autorisent. Et on est très consciente que dans ces parties du monde, c'est quand le père autorise, et ben c'est beaucoup plus facile de prendre son envol.
Et dans le monde entier, parce que justement, vous écrivez une lettre à Marie Curie, hein, dans ce livre collectif qui paraît aux éditions Marchaise. C'est une femme qui a été première en tout, comme vous le rappelez, et qui a levé tous les interdits qu'une construction sociale nous impose. C'est bref un petit génie de femme, mais qui a été aidée sur son parcours par deux hommes.
Toujours, en fait, son père lui a dit « tu peux faire des études scientifiques, ma chérie ». Et son mari lui a dit « nous sommes égaux et ce prix Nobel, nous allons le partager et on va tout faire ensemble ». C'est formidable. Parce que oui, elle avait quand même des sacrés handicaps. Hein. Elle était migrante, femme, pauvre. Elle avait tout pour se planter.
Alors, quel que soit le timing dans votre en sol majeur, c'est un peu l'heure du mythe de Sisyphe qui se joue et se rejoue à Gaza. Et oui, vous faites la grimace, bien sûr, puisqu'après une quinzaine de jours de guerre entre Israël et le Hamas, vous êtes venu avec un petit cadeau pour en sol majeur. C'est un a cappella d'une chanteuse à texte, peut-être d'origine égyptienne, et qui signe une chanson pour la Palestine.
B comme prise de sang.
There once was a land called Palestine where Christians, Muslims and Jews lived fine. In the 1800s it was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile a bearded guy founded Zionist for Jews to aspire. A land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War I that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Still the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more Jews arrived seeking refuge, and that's alright, until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where is your respect for dignity? Call it conflict as insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story, story of Palestine.
Une chanson virale apparemment sur les réseaux sociaux, que cette chanson pour la Palestine, que vous nous résumeriez de quelle manière, Ada ?
Pour moi, c'est une question d'égalité, là encore, et de justice.
Enfin, cette chanson résume l'histoire de la Palestine.
Complètement,
mais
elle est très... Voilà, enfin, c'est un point de vue historique qui est tout à fait respectable.
La Palestine, ça fait partie, j'imagine, de votre ADN. Militant, peut-être, ça, je ne sais pas si ça va jusque-là.
Si, si, c'est mes premières manifs. Ah, ouais. J'avais 12 ans, c'était pour la Palestine.
Ouais. C'était comment ?
C'était tellement un combat de justice pour nous qui connaissions les Palestiniens de l'intérieur, si je puis dire. En seconde, vous savez, on fait des projets, des exposés, et avec deux copines, on avait choisi le camp de la quarantaine. On était allés se promener du haut de nos 15 ans dans ce camp.
Où les réfugiés palestiniens...
On avait entassé des Palestiniens qui avaient été progressivement chassés de Palestine, puis d'Israël, puis de Jordanie. On sentait que c'était des lieux de non-droit, que c'était compliqué. Et en même temps, on avait été incroyablement choqués par tout ce qu'on avait pu voir. Et c'est ma première conscience politique, la Palestine.
Est-ce que vivre cette question, non plus depuis le Liban, mais depuis la France, ça déplace quelque chose, ça change quelque chose ?
En France, c'est plus compliqué parce qu'il y a une loyauté à l'État juif. Il y a un antisémitisme abominable que je vomis du plus profond. Et il faut faire cohabiter tout ça. C'est-à-dire qu'on peut condamner vraiment férocement tous les actes antisémites qui n'arrêtent pas de se reproduire et être quand même soucieux que la Palestine ait enfin une terre. Je crois que, malgré ce que dit cette jeune femme dans sa chanson, l'idée n'est pas de bouter les Israéliens dehors et qu'on est encore très loin du compte. Alors, je ne sais pas si moi, je verrais ça. Quand j'étais petite, le slogan, c'était « L'an prochain, Jérusalem ».
Ce Liban qui donc vit la pire crise économique et financière de son histoire, je suppose que la Libanaise expatriée que vous êtes ne regarde pas tout ça les bras croisés ?
Pas complètement. Je suis déjà très occupée, mais je fais partie d'un petit mouvement d'expatriés. C'est très douloureux de faire partie de la diaspora, de se dire qu'on a de la chance, que nous, on a de quoi manger, un toit, une sécurité, et que nos frères, nos cousins ne l'ont pas. Et on a tous envie de travailler dans plein de domaines comme l'économie, la santé, le droit des femmes. Donc ce soir, j'ai une petite réunion avec un groupe de femmes qui veulent changer des choses. Par exemple, je prends un exemple tout con. Quand vous êtes libanaise, vous ne pouvez pas donner votre nationalité à votre enfant. C'est quand même fou. Mmh. Donc ça sera un de nos combats.
Un beau combat. Donc le cœur oriental avec sur le dos la marinière d'Arnaud Montebourg.
C'est ça.
On va terminer avec une mezzo-soprano que vous nous avez conseillée en sol majeur, une certaine Roula Safar. Alors là, je crois qu'elle va chanter Ibn Arabi, Amoureux de l'amour. Et c'est pour terminer sur une note vertueuse, car je sais que c'est important pour vous, en précisant que même si vous êtes peut-être croyante, votre Dieu à vous, c'est forcément un Dieu qui aime autant les hommes que les femmes.
Peut-être un peu plus les femmes, on a droit à un petit rattrapage. Petit chouïa, petit chouïa. البرق شرقي فحن إلى الشرقي والوراح غربي فحن إلى الغربي فإن غرامي بالبريد ولمحتي وليس غرامي بالأمكان والتربي فإن غرامي بالبريد ولمحتي وليس غرامي بالأمكان والتربي
Sol majeur, un peu en prière. Émission à réécouter en podcast sur votre application préférée Pure Radio. C'est un conseil en sol majeur et à retrouver sur nos réseaux sociaux et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous chauffe le fauteuil demain pour accueillir Angélique Kidjo.
Ah, super ! J'adore cette femme.
Tous les cinémas du monde.